RFI 6h30 à Bamako et Abidjan 7h30 à Niamey. À la une de votre journal, Édouard Dupénoit, la Côte d'Ivoire et l'arrestation de plusieurs membres suspectés du groupe État islamique.
Oui, coup de filet aussi simultané à Madagascar. L'opération est ancienne, déjà elle remonte à juillet dernier, on ne l'apprend que ces derniers jours. C'est aussi les fruits d'une coopération internationale. Une manifestation contre l'insécurité qui dégénère au Burkina Faso. Un chef de canton tué dans la boucle du Mouhoun. Djoliba TV cesse d'émettre aujourd'hui. Décision de l'autorité malienne de la communication. Et cela après les propos que Issa Kaounjim a tenus dans l'une des émissions de la chaîne. Lui-même étant déjà embastillé après la colère du voisin burkinabé. Le ciment détaxé au Niger. Les achats en forte hausse. L'exportation désormais interdite. Mais Niamey ne donne pas la raison officielle de cette mesure. Reportage au Ghana dans ce journal avec des afro-descendants qui obtiennent leur nationalité. Accra facilite les démarches pour les descendants de celles et ceux qui ont été déportés pendant la traite des Noirs.
On parle aussi murs porteurs, fondations et matériaux dans le dossier de ce journal.
Mais pourquoi les habitations de Madagascar sont-elles ce qu'elles sont? Quelle différence entre l'Est et l'Ouest de l'île? Quel point commun universel? Plongée architecturale dans des minutes.
Les autorités de Côte d'Ivoire confirment l'arrestation de plusieurs personnes suspectées d'appartenir à un réseau terroriste.
Interpellation qui remonte donc à 4 mois, mais révélée ces derniers jours par le journal français Le Monde. 6 individus, originaires d'Irak et de Syrie, arrêtés à Abidjan, suspectés d'être liés au groupe État islamique et avec le projet de rejoindre l'Europe. Plusieurs autres personnes avaient été interpellées au même moment à Madagascar, soupçonnées, Sidi Yansané, de faire partie du même réseau.
Une source gouvernementale ivoirienne confirme discrètement à RFI que l'unité antiterroriste a bel et bien arrêté 6 hommes irakiens et syriens dans la commune de Koumassi à Abidjan le 28 juillet dernier, et ce grâce aux renseignements des services secrets américains. Selon le quotidien Le Monde, à l'origine de ces révélations, l'opération a permis la saisie de faux papiers et d'une 30aine de cartes SIM dans l'appartement des suspects, plus tard interrogés par les services ivoiriens et leurs partenaires américains qui les soupçonnaient de projeter un attentat aux Jeux Olympiques de Paris. En même temps que les interpellations à Abidjan, une opération similaire se déroulait 6200 km plus loin, à Madagascar. Les services malgaches épaulés par la DGSE française mettaient la main sur 2 autres membres du même réseau. Toujours selon Le Monde, les renseignements américains et français suivaient ces suspects depuis des mois pour leur lien avec l'organisation État islamique. Abidjan et Madagascar sont déjà confrontés au djihadisme venu du Sahel et du Mozambique, mais c'est la première fois que la présence de terroristes présumés directement originaires du Moyen-Orient est reconnue par les autorités ivoiriennes.
L'actualité en Côte d'Ivoire encore, et le procureur de la République qui annonce l'ouverture d'une information judiciaire contre 3 personnes, ainsi que leur placement sous mandat de dépôt, et cela pour mise en danger d'autrui et abandon de déchets sanitaires à risques infectieux. Les faits reprochés remontent en fait à la semaine dernière avec la découverte morbide de 2 fœtus ainsi que de déchets médicaux infectieux dans une benne à ordures à Abidjan. La police avait alors trouvé des fiches estampillées de 2 hôpitaux universitaires de la capitale économique. Une manifestation contre la situation sécuritaire très dégradée dégénère au Burkina Faso. Les habitants de Solenzo, dans la région de la boucle du Mouhoun, sont sortis hier, malgré les demandes des autorités locales de reporter leur marche. Leur manifestation faisait suite à la mort de plusieurs supplétifs civils de l'armée la semaine dernière. Mais la protestation d'hier s'est muée en scène de violence et Alexis Guilleux, le chef du canton, a été tué.
C'est l'attaque contre une position des volontaires pour la défense de la patrie jeudi dernier qui a ravivé la colère des populations. Elles estiment avoir alerté le bataillon d'intervention rapide plusieurs heures avant l'assaut, sans aucune réaction des soldats. 15 VDP ont alors été tués. Lors d'une rencontre dimanche, les autorités administratives, soutenues par le chef du canton, avaient demandé de reporter la manifestation prévue ce lundi, sans succès. Excédées, les populations de Solenzo sont sorties dans les rues. Selon des témoins, le chef du canton a été pris pour cible, son domicile saccagé, ses épouses battues. Lui-même a été lynché, puis tué, comme le montrent des images diffusées par les réseaux sociaux. Un fait très rare au Burkina Faso où les chefs traditionnels participent à la régulation des tensions sociales. Les forces de défense et de sécurité ont recouru à des tirs de sommation pour disperser les manifestants. Un couvre-feu a été instauré hier après-midi.
Alexis Guilleux.
Le Burkina Faso, dont la colère de l'autorité de la communication semble bien avoir été entendue côté malien.
Il y avait déjà eu l'arrestation et le placement sous mandat de dépôt contre Issa Kaounjim après les très vifs doutes qu'il avait exprimés sur une supposée tentative de putsch au Burkina. Et désormais, la fermeture de la chaîne Joliba TV elle-même, chaîne sur laquelle il était invité à s'exprimer, elle cesse d'émettre aujourd'hui, décision de la HAC, la haute autorité malienne de la communication. Mais ni les responsables de la chaîne, ni les organisations professionnelles de la presse ne comptent accepter cette décision sans broncher, David Bachet.
Ils rendront compte un jour devant le peuple, prédit avec colère un dirigeant de Joliba TV. C'est une décision politique. Ils veulent uniformiser la pensée dans l'AES, poursuit cette source. Nous préférons perdre notre licence que d'être une caisse de résonance. Tous les médias maliens sont menacés. Une position partagée par la Maison de la Presse, qui rassemble les organisations de journalistes du Mali, et dont une délégation a rencontré hier le collège de la Haute Autorité de la Communication du Mali, pour lui demander de revenir sur cette décision jugée excessive. Une réponse rapide aurait été promise, mais c'est bien ce mardi que le signal de Joliba TV est censé être coupé. Le président de la HAC, Gaoussou Koulibaly, n'a quant à lui pas souhaité répondre à RFI, interdite au Mali depuis plus de 2 ans et demi. Nous ne nous tairons pas, préparez vous au réveil du peuple. Vive la liberté, vive Joliba, ont réagi ouvertement plusieurs journalistes maliens. La Maison de la Presse prévoit de demander à tous les médias nationaux de rediffuser l'émission incriminée, en signe de protestation. La quasi-totalité des partis politiques maliens rassemblés au sein de la déclaration du 31 mars demande aux autorités de reconsidérer une mesure liberticide qui ternit l'image du pays.
Quant à Issa Kaounjim lui-même, on rappelle qu'il doit être jugé au mois de février prochain pour offense commise publiquement envers un chef d'État étranger. L'actualité dans le Sahel, toujours, ce sont les autorités de transition du Niger qui interdisent l'exportation de ciment gris. Elles n'en donnent pas de raison officielle, mais la mesure survient, quoi qu'il en soit, un mois après l'annonce de la très forte baisse des prix de ce ciment, moins 35%. La mesure avait été annoncée alors pour relancer le secteur de la construction moribond. Précision Alexis Bédu du service économie.
Aucune raison officielle n'a été communiquée pour justifier cette décision d'interdire ces exportations, mais cela devrait permettre au ciment nigérien de rester dans le pays, car son nouveau prix attractif intéresse les habitants des pays frontaliers. Il y a un mois, le prix du ciment gris a été détaxé par décision du CNSP. La tonne coûte désormais entre 51 000 et 59 000 francs CFA selon les régions. Depuis cette annonce, la demande a explosé et l'offre ne suit pas, explique Yacouba Danmaradi de la Fédération des organisations patronales du Niger.
La demande est accrue subitement et surtout que la mesure, elle va prendre juste une année. Donc les gens, ils savent qu'ils ont l'argent en main, ils vont faire vite pour pouvoir rétablir leur maison détruite par les inondations, achever donc les travaux d'infrastructure que les gens ont. Au moment où c'était lancé, moi je pense qu'il n'y avait pas un stock suffisant pour pouvoir satisfaire la demande même au niveau national.
Près de 150 000 maisons se sont effondrées dans le pays suite aux inondations de la saison des pluies. Des milliers de bâtiments publics ont également été détruits. La reconstruction nécessite une importante production des 3 cimenteries du pays. Elles fournissent un peu plus d'1 million de tonnes de ciment par an.
Alexis Bédu, la population ghanéenne en brusque hausse, plus 524 ressortissants en une seule journée. Mais ce ne sont pas des naissances, ce sont des naturalisations. Le président Nana Akufo-Addo présidait une cérémonie au cours de laquelle ces centaines d'afro-descendants ont reçu leur nationalité ghanéenne. Cela fait plusieurs années en fait que Accra, comme le Bénin d'ailleurs, ont lancé cette diplomatie mémorielle, faciliter l'installation dans le pays de ceux dont les ancêtres avaient été déportés comme esclaves pendant la traite des Noirs. Victor Cariou a recueilli l'émotion de ces néo-ghanéens.
Un retour à la maison. Voici les mots qui sortaient de toutes les bouches ce matin au bureau du Diaspora Africa Forum, une entreprise d'aide à la repatriation à Accra. Leur toute nouvelle carte d'identité ghanéenne dans les mains, Sidra Smith et Hike Howard, afro-américains d'une 50aine d'années, ne peuvent s'arrêter de sourire.
Hier, c'était le moment le plus magique que j'ai jamais vécu.
J'ai attendu ça depuis toujours et aujourd'hui, on sent qu'on a enfin le droit de revenir à la mère patrie. C'est dans notre ADN, ça fait partie de nous.
Selon le Diaspora Africa Forum, près de la moitié de ces 524 nouveaux Ghanéens n'ont d'ailleurs jamais vécu dans leur nouveau pays. Judah Hatcher, habitant du Maryland, prévoit de s'y installer l'année prochaine.
Nous espérons d'abord pouvoir trouver un terrain pour y bâtir notre maison. Ensuite, nous chercherons une organisation qui aurait besoin de notre aide pour construire une école, ou nous le ferons nous-mêmes.
Sa naturalisation a été facilitée par une prérogative présidentielle qui l'a dispensé de résider plusieurs années sur le sol ghanéen avant de pouvoir prétendre à la nationalité. La même dérogation dont a bénéficié 6 mois plus tôt le chanteur Stevie Wonder. Victor Cariou, Accra, RFI.
Pourquoi la porte est-elle à l'ouest ? Pourquoi certaines maisons sont-elles 3 fois plus petites que d'autres ? C'est le dossier de ce journal à Madagascar.
Et au musée de la photo dans la capitale malgache pour la Maison des Vivants. C'est le nom de l'exposition qu'on vous emmène visiter maintenant et qui propose un panorama inédit des habitats de Madagascar. Mais pas des grands édifices religieux, politiques ou sportifs. La maison de monsieur et madame tout le monde. Et l'on remarque que si chaque région de la grande île a ses spécificités, il y a aussi des points communs universels. Visite avec Sarah Teto.
Devant les maquettes représentant 14 types de maisons malgaches, une visiteuse s'étonne.
Il y en a qui sont en paille, il y en a aussi là-bas en bambou, en bois. Ben pourquoi toute cette diversité ?
Alors, le fait qu'il y ait autant de diversité en termes de matériaux s'explique par les ressources dont disposent les gens qui construisent ces maisons.
Siori Ranjamanantena est le directeur du musée de la photographie.
Dans l'est, où on a des forêts abondantes, on utilise du bois. Sur les hautes terres, où on a une végétation assez maigre, les gens utilisent de la terre.
Autre curiosité, la hauteur des maisons qui varie parfois du simple au triple.
Cette différence de taille, elle s'explique d'abord par le mode de vie des populations. Il est évident que chez les populations semi-nomades, les maisons sont de petite taille parce qu'elles sont amenées à être déplacées au fil des migrations. Ensuite, il y a l'aspect culturel. Par exemple, chez les Bars, donc population du sud de Madagascar, la maison accueille le mari et son épouse uniquement sans les enfants. Tandis que sur les hautes terres, la maison accueille la famille élargie. Et enfin, intervient le statut social. Plus une maison est grande, plus elle extériorise la richesse de son occupant.
Malgré toutes ces différences, les maisons conservent des caractéristiques communes.
La maison est systématiquement orientée du nord au sud et la porte tournée vers l'ouest. Et ça, en raison de croyances partagées par tous les malgaches. L'ouest, par exemple, c'est le profane, donc tout le monde peut y passer, contrairement à l'est, partie de la maison considérée comme sacrée, réservée aux ancêtres.
Plus qu'un simple abri privé, la maison malgache traduit donc la culture et l'identité des gens qui l'occupent. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Comprendre les maisons malgaches, c'est rappeler certes l'évidence, mais le pays, c'est une île. Ça fait 1300 ans qu'il y a des échanges maritimes avec les voisins, parfois éloignés, entre les côtes africaines et celles d'Asie du Sud-Est. Tous ces échanges ont fait ressentir leurs influences sur l'architecture malgache. Eliante Radzonarson, enseignante-chercheuse, directrice du département d'histoire à l'université d'Antananarive.
Il faut d'abord reconnaître que le fait d'être une île a ouvert Madagascar à différentes influences de l'étranger. Madagascar est entré en relation avec la côte orientale africaine dès le 9e siècle, avec ses différents commerçants qui sont venus soit d'Arabie, soit d'Afrique même, comme par exemple des Somalis, de Kenya aujourd'hui, Mozambique, ou encore des îles de Zanzibar et Sofala. Et toutes ces personnes, ces commerçants spécialement, venus dans l'île, ont laissé des traces dans l'architecture. Il y a par exemple les portes omanaises qui font une des singularités de la région du Bouin, avec des fers décorés. L'architecture de l'Est de l'Afrique se retrouve à Madagascar à travers ces maisons faites en terre avec un toit en chaume. Il y a aussi les traces de construction austronésienne. Ce sont ces maisons qui sont essentiellement à l'origine des maisons sur pilotis, les maisons en falaf sur le littoral est malgache ou encore jusque dans les hautes terres. Et on les date à partir du 7e siècle qui correspond à l'arrivée des premiers migrants. Et donc la maison malgache comporte toutes les traces de ces différentes influences architecturales de l'Asie du Sud-Est jusqu'à l'Est de l'Afrique.
La directrice du département d'histoire à l'université d'Antananarive pour ce dossier réalisé par notre correspondante Sarah Teto.
Et c'était le journal d'Edouard Dupé. Merci Edouard, vous revenez dans moins d'une heure.